Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc qu'on fait tous, tout le temps, sans même y penser. On utilise ces grandes catégories un peu fourre-tout comme la société, les médias ou le fameux les gens. On les emploie tous les jours, mais qu'est-ce qu'elles cachent vraiment? Pour creuser la question, on s'est penché sur deux articles du blog Philosophie, médias et société de Julien Lecomte. Il y en a un de 2022 et un autre un peu plus ancien de 2011. Et il décortique de façon brillante comment ces raccourcis de pensée, ils sont loin d'être inoffensifs. En fait, ils peuvent carrément nous empêcher de voir le monde tel qu'il est. Alors l'idée, ensemble, c'est d'essayer de comprendre ce qui cloche avec ces étiquettes et on va voir qu'une pensée plus précise, plus nuancée, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est un vrai outil pour agir plus intelligemment.
Oui, et c'est un sujet qui nous touche tous, en fait. L'auteur, Julien Lecomte, y démarre fort. Il analyse ces expressions qu'on voit sur les réseaux, écrites un peu ironiquement, tu fais « hashtag la société », hashtag les systèmes.
Oui, hashtag les médias aussi.
Voilà, exactement. Et il explique que leur but, c'est pas tant de décrire une réalité précise, c'est plus pour marquer un positionnement. C'est une façon de dire « moi, je suis pas dupe ».
D'accord.
Et en faisant ça, on crée un « e », un adversaire un peu flou. La sociologie, elle appelle ça la création d'un exogroupe. Du coup, on se définit en opposition à quelque chose. Et ça, c'est le point de départ d'une vision très binaire du monde. Nous, contre eux, quoi.
D'accord. Alors, plongeons tout de suite dedans. Le premier gros problème que les articles soulignent, c'est ce manque total de discernement que ça entraîne.
C'est exactement ça. Le cœur du problème est là. Quand on dit « la société veut que », ou même « les scientifiques ont prouvé que », on parle de ces groupes comme s'ils étaient des blocs.
Comme une seule entité.
Un bloc monolithique, avec une seule voix. Or, la plus grande leçon des sciences humaines, c'est tout le contraire. L'auteur le dit très bien, ces réalités sont morcelées, hybrides, complexes, plurielles. Penser que tous les journalistes pensent la même chose ou que tous les politiques sont les mêmes, c'est une paresse intellectuelle qui nous aveugle.
C'est un peu comme regarder une mosaïque de très loin et dire « c'est un grand carré bleu ».
C'est ça.
Alors qu'en s'approchant, on verrait des milliers de petites tesselles de couleurs, de formes.
L'analogie est parfaite. On sacrifie la vérité du détail pour le confort d'une image simple. Et cette simplification, elle n'est jamais neutre.
D'ailleurs, il prend un exemple qui va parler à beaucoup de monde. La critique des médias. Il a cette formule que j'ai trouvée géniale. Il parle de critique schizophrénique des médias sociaux.
Ah oui.
C'est-à-dire ces gens qui, sur Facebook ou X, se lancent dans des tirades sur l'importance de retrouver la vraie vie loin des écrans. Il y a une contradiction savoureuse, non?
C'est une contradiction fondamentale. Et souvent, Lecomte dit que ce discours de la vraie vie, il cache des positions idéologiques assez conservatrices, voire réactionnaires. Mais le plus intéressant, c'est l'argument ultime qu'on utilise pour justifier cette critique en bloc. Le bon sens.
Le fameux bon sens.
Voilà. Et cet appel au bon sens populaire contre les experts, c'est une des signatures du populisme.
Donc, si je comprends bien, le populisme, tel que l'auteur le décrit, ce serait un peu comme prétendre parler au nom de la forêt.
Oui.
Tout en ignorant complètement que chaque arbre est différent, avec sa propre histoire, ses propres besoins.
C'est une excellente façon de le formuler. On crée une entité peuple qui serait unie, pure, face à des élites corrompues. Le point crucial, et les articles insistent vraiment là-dessus, ce n'est pas de dire qu'il faut s'abstenir de critiquer. Surtout pas.
Au contraire.
Au contraire, la critique est vitale en démocratie. Mais pour qu'elle soit utile, elle doit être précise. Critiquer une ligne éditoriale, un traitement journalistique particulier, une décision politique documentée, ça sert à quelque chose. Blâmer les médias en bloc, ça ne produit que du bruit.
Et c'est intéressant parce que ça m'amène à une idée qui m'a vraiment interpellée dans l'article de 2022. Ce n'est pas juste une erreur d'analyse, c'est une véritable posture idéologique. Le but, c'est pas de comprendre, c'est de se positionner. D'ailleurs, il pointe une ironie assez mordante. Ceux qui critiquent les médias traditionnels finissent souvent par s'informer à des sources bien pires.
Ouais, mais c'est un paradoxe qui est au cœur de notre époque, hein. Le discernement est jeté avec l'eau du bain, quoi. On rejette en bloc tout ce qui vient d'une source officielle, un grand journal, une université, sans faire de distinction. Mais en même temps, on accorde une confiance aveugle à un blogueur anonyme, une chaîne YouTube ou un message qui tourne en boucle sur WhatsApp.
C'est vrai.
L'auteur lit ça à ce qu'il appelle l'attitude de défiance conspirationniste. Le complotisme, selon lui, c'est moins un ensemble de croyances qu'une posture de méfiance généralisée. Et dysfonctionnel. C'est plus « je doute, donc je suis », mais « je doute de tout, sauf de ceux qui me disent de douter ».
Justement, il y a un passage dans l'article qui est assez savoureux, c'est quand il s'attaque au fameux « les médias n'en parlent pas ».
Ah oui.
Souvent en majuscule avec plein de points d'exclamation. Et le décalage qu'il montre entre cette affirmation et la réalité, avec le cas de Didier Raoult pendant la pandémie, est saisissant.
C'est un cas d'école. Le contre-appel chiffre à l'appui que Didier Raoult a été l'une des personnalités les plus visibles, invitée et citée partout.
Sur tous les plateaux ?
Absolument. Et pourtant, le récit qui a pris chez ses partisans, c'était celui d'un homme censuré, réduit au silence par le système. C'est la preuve que cette phrase « les médias n'en parlent pas », ça ne relève pas de l'info, mais de la croyance. Ça ne sert pas à décrire le monde, ça sert à renforcer le sentiment d'appartenir à un groupe d'initiés.
On retrouve la même mécanique avec des phrases comme « les Français pensent que ».
Absolument, c'est le même présupposé d'un peuple monolithique. D'ailleurs, l'auteur cite un billet hilarant du blogueur Odieux Connard.
Ah oui, je l'ai lu.
Qui, déjà en 2014, se moquait de ces politiciens qui, le soir d'une élection, affirmaient avoir entendu le message des Français. Comme si des millions de votes, d'abstention, de choix complexes, pouvaient se résumer à un seul message clair. C'est du populisme de manuel.
Et on voit bien l'absurdité de la chose.
Oui. Le conte souligne l'absurdité de voir des personnalités issues du système se poser en grand pourfendeur de ce même système. Et le plus troublant, c'est que ça marche.
On a bien cerné le problème de logique, de raisonnement. Mais si on va plus loin, quelles sont les conséquences réelles, concrètes de tout ça? L'auteur utilise un mot très fort. Il qualifie ce phénomène de mortifère. C'est lourd de sens. Qu'est-ce qu'il met derrière?
Le mot est choisi à dessein, parce que les conséquences sont graves. Sur le plan moral et social, cette manie de la généralisation, c'est le moteur des discours de haine. Le racisme, le sexisme, l'homophobie. Tous ces fléaux reposent sur le même mécanisme. On prend un groupe divers d'individus, on lui colle une étiquette, on lui attribue des caractéristiques négatives et on en fait un bouc émissaire. C'est ce que les philosophes appellent la réification.
Attendez, ce mot est important, réification. On peut le rendre plus concret pour tout le monde. Comment ça se manifeste au quotidien?
Bien sûr. Pensez à une phrase qu'on entend partout. Les jeunes ne veulent plus travailler. Au lieu de considérer des millions de situations individuelles, un jeune qui se lance dans l'artisanat, une autre qui fait des études exigeantes, un troisième qui enchaîne les petits boulots, on traite un bloc uniforme, les jeunes. Et on le traite comme un objet paresseux et homogène. On a transformé une réalité humaine, complexe et diverse, en une chose simple et critiquable. C'est ça la réification. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça déshumanise.
Donc, ce n'est pas seulement une simplification, c'est un court-circuit intellectuel et moral. Une fois qu'on a notre coupable tout désigné, les élites, le système, on n'a plus besoin de réfléchir.
Vective, dont le seul but est de fédérer contre un ennemi. La nuance devient suspecte, le questionnement est vu comme une trahison. Une fois le coupable identifié, pourquoi chercher à comprendre les causes profondes d'un problème? C'est tellement plus simple et satisfaisant d'avoir un ennemi à blâmer.
Le constat est assez sombre. Face à cette pollution de l'espace public, comme vous dites, comment on s'en sort? Quelle est l'alternative?
L'alternative tient en deux mots qui peuvent paraître un peu désuets. La nuance et le dialogue. L'auteur insiste beaucoup sur l'idée que la pensée est avant tout une affaire de mesure. Il ne s'agit pas de se noyer dans les détails juste pour le plaisir.
Oui, il a une expression assez crue mais parlante. Il faut éviter de tomber dans l'onanisme intellectuel.
Exactement. L'expression est forte, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Le but, c'est pas de se complaire dans la complexité pour se sentir intelligent. C'est de l'utiliser comme un outil pour mieux comprendre le monde et donc pour y agir plus efficacement. Et il apporte une précision capitale. L'appel à la nuance peut aussi être un piège, une façon de ne jamais prendre position. Il reconnaît que face à certaines injustices, la lutte parfois radicale est nécessaire. Il ne prône pas un relativisme mou où tout se vaut.
L'idée, ce n'est donc pas la complexité pour la complexité, mais la complexité pour l'efficacité. Reconnaître la structure d'un problème pour pouvoir le démonter plutôt que de donner des grands coups de marteau sur un système fantasmé.
C'est tout à fait ça. Il s'agit d'adopter une sorte d'hygiène intellectuelle, de s'interroger sur les fondements de nos propres discours et de ceux qu'on nous sert. Bien sûr, on a besoin de catégories pour penser, on ne peut pas tout réinventer. Mais, et c'est une phrase que je trouve très puissante dans l'article, les mots ont d'autant plus de puissance qu'ils réfèrent correctement à quelque chose. Des mots précis ont un impact réel. Des mots vagues ne créent que de la confusion.
Et du ressentiment.
Et du ressentiment.
Le but ultime, ce n'est pas de choisir son camp, les bons contre les méchants, mais de dépasser ces postures stériles pour construire des solutions.
Si on devait résumer, ce qui se dégage, c'est que ces grandes catégories comme la société ou les médias sont de véritables poisons pour la pensée critique. Elles nous enferment dans une vision de western avec les gentils et les méchants, nourrissent la défiance et, au final, nous rendent impuissants.
Le message central, c'est vraiment un plaidoyer pour la précision et le discernement. Faire l'effort de nommer les choses correctement, d'identifier les acteurs, de décrire les mécanismes, ce n'est pas un luxe intellectuel. C'est la condition pour comprendre la réalité et avoir une chance d'agir dessus de façon juste. Et tout cela, ça ouvre une dernière question, une piste de réflexion qui va un peu au-delà des articles. Le conte analyse très bien comment nous, en tant qu'individus, on utilise et on subit ces simplifications. Mais on pourrait se demander dans quelle mesure ces catégories simplistes ne sont-elles pas en fait intentionnellement cultivées et promues par certains acteurs. Précisément parce qu'elles court-circuitent la pensée complexe et permettent de mobiliser très facilement les émotions et les foules contre un ennemi commun, qu'il soit réel ou inventé.